C'est l'heure de retrouver Pensez donc. Bonjour Laurence Luret.
Et bonjour Eric.
Ce matin, vous recevez le philosophe Abdennour Bidar pour parler de notre temps libre.
Et oui Eric, imaginez si vous n'aviez plus à travailler le week-end ou la semaine, si vous pouviez disposer de tout votre temps, que feriez-vous? Bonjour Abdennour Bidar.
Bonjour Laurence Luret.
Toute ta vie dépendra de l'argent que tu gagneras dans nos entreprises et tout ton bonheur dépendra des produits que tu achèteras dans nos magasins. Telle est la devise de nos sociétés, écrivez-vous, et vous proposez de nous en libérer. Comment ?
Par ce que André Gorz a appelé autrefois le temps libéré et le revenu universel, c'est-à-dire un revenu inconditionné qui serait versé à chacun pour prendre enfin le temps de s'occuper de lui-même, de s'occuper de son existence. Ça peut paraître une utopie chimérique quand on le dit comme ça, mais à y regarder de plus près, c'est une utopie réaliste qui correspond, me semble-t-il, aujourd'hui au niveau de civilisation que nous avons atteint parce que nous avons une capacité à produire de la richesse qui est telle que nous pourrions effectivement, non pas peut-être ne plus travailler du tout, mais en tout cas travailler encore beaucoup moins que ce que nous faisons actuellement, et puis surtout dans des conditions qui seraient meilleures.
Alors si on n'a plus besoin de travailler, qu'allons-nous faire de tout ce temps libéré? Certains disent, bah voilà, on va se vautrer dans nos canapés à regarder des séries, d'autres faire du sport. Pas sûr que ça suffise à remplir une vie.
Ah ben évidemment non. Le premier qui a posé la question, on s'y attend peu, c'est John Maynard Keynes au début des années 30. John Maynard Keynes, le grand économiste. Alors il imaginait déjà qu'en effet on allait vers des sociétés et des époques où l'homme aurait beaucoup moins besoin de travailler, mais il dit alors le vieil Adam, c'est son expression, qui est tellement habitué à travailler, fera probablement une dépression nerveuse et nous ferons tous une dépression nerveuse généralisée. Donc j'essaye d'imaginer l'inverse, c'est-à-dire j'essaye au contraire de concevoir cette stimulation absolument inouïe que représenterait un temps libéré, mais contre le préjugé, justement, sur la nature humaine, que si l'homme était livré à lui-même, eh bien, il resterait vautré dans son canapé. Moi, j'ai davantage confiance quand même dans la nature humaine.
Mais alors, vous étudiez également un des problèmes possibles, c'est la catastrophe sociale avec une société qui pourrait s'effondrer, hein, plus aucun service ne serait disponible, tout le monde s'arrête de travailler. Comment on mettrait ça en œuvre? Tout le monde s'arrête d'un coup ou petit
évidemment
à petit?
Évidemment non. Alors, j'ai imaginé un exode hors du monde du travail. Tout le monde s'arrête et tout s'arrête. Évidemment, on ne peut pas se le permettre. Cela étant dit, ça me paraît relativement improbable. Parce que d'abord, il y aurait beaucoup de gens qui garderaient leur travail, tout simplement parce que même s'il y a dans notre société une énorme souffrance au travail, il y a aussi beaucoup de bonheur au travail. C'est souvent le travail qui va donner du sens à des existences, qui va permettre à l'individu de se sentir utile et de se sentir exister. Bon, ça c'est sûr. Donc il y a tout un ensemble de gens qui garderaient leur travail. Je ne pense pas qu'on ait à craindre une panne généralisée de la société. Je crois qu'on aura enfin une opportunité de sortir de ce qu'on a appelé au XXe siècle et dans lequel on est toujours, à savoir les sociétés de masse. C'est-à-dire les sociétés qui standardisent, qui stéréotypent, qui uniformisent la vie sociale et les individus tous dans les mêmes modèles et les mêmes rythmes de vie. Là, on va avoir l'opportunité de moduler nos régimes et nos rythmes d'existence.
Donc, travailler métro, moins à certaines dodo, périodes. C'est voilà. Fini. Les grands embouteillages le matin, le soir, le métro bondé, c'est fini.
En tout cas, on aurait une véritable opportunité d'en finir avec ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rêve cuit-cuit les petits oiseaux, de partir à la campagne, de faire un break, etc., on se met toujours en difficulté, voire en danger, par rapport à l'insécurité économique auquel on s'expose soudain. Alors que là, en effet, une fois l'individu rassuré par la sécurité économique que lui procurerait le revenu universel, il y aurait cette possibilité réelle, cette capacité réelle, je parle comme Amartya Sen, là, qui parle toujours de cette capacité, c'est-à-dire de ces libertés concrètes qu'il s'agit toujours aujourd'hui de se donner dans la société et la civilisation. Et donc, en effet, on peut imaginer une société qui vive à des rythmes différents, les uns partiraient à la campagne, les autres commenceraient leur journée de travail plus tard, les uns choisiraient de travailler davantage à certaines périodes de leur vie, ce serait enfin l'occasion d'individualiser la société dans le bon sens du terme, pas dans le sens de l'individualisme, mais dans le sens d'un véritable choix donné à la singularité de s'exprimer.
Abdennour Bidar, le travail, c'est un ciment social, vous l'avez rappelé, tout autant qu'un pilier de nos identités personnelles. Comment faire société ensemble et puis se construire personnellement, mais sans le travail?
Ah bah ça, de toute façon, c'est la grande équation irrésolue des sociétés modernes. Souvenez-vous de Norbert Elias qui, au milieu du XXe siècle, écrit « La société des individus ». Nous sommes une société des individus. C'est-à-dire nous essayons de faire société, c'est-à-dire de garder une cohésion et une homogénéité, alors même que notre désir de nous différencier est toujours plus important. Je pense qu'on peut faire société sans faire tous la même chose au même rythme et au même moment. L'homogénéité ou la cohésion d'une société n'est pas forcément conditionnée par l'identité de tous, parce que sinon ça s'appelle le totalitarisme. Et c'est bien ça, justement, le spectre qui menace nos sociétés de masse, c'est de faire vivre tous les individus de la même façon et au même rythme dans la société du travail et de la consommation, et à partir de là, d'être une espèce de totalitarisme soft dans lequel l'individu, c'est-à-dire la singularité, étouffe.
Alors, cette liberté nouvelle que vous nous laissez entrevoir, elle donne carrément le vertige. C'est vrai que c'est très séduisant, mais ça fait quand même un peu peur. Est-ce que ça veut dire que nous allons être forcément tous disponibles, comme vous le suggérez, à des grandes questions existentielles? Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Et donc, est-ce à dire qu'on deviendrait tous un petit peu, vous me voyez venir, des philosophes?
C'est l'hypothèse que j'émets dans le livre. C'est-à-dire, je dis, après le temps du philosophe roi de Platon, voilà le temps du philosophe citoyen et de chacun qui a un peu plus de temps pour se consacrer à lui-même, simplement. Alors, sans aller jusqu'à imaginer qu'on va tous se mettre à philosopher au sens fort du terme. Néanmoins, je crois que cette situation existentielle nouvelle serait l'opportunité d'une confrontation beaucoup plus importante de l'individu au sens qu'il veut donner à sa vie, mais de la manière la plus simple et la plus libre aussi. C'est-à-dire que ce serait l'opportunité pour l'individu de se dire, mais au fait, qu'est-ce que je veux faire de moi-même? Comment vais-je organiser ma vie pour la mettre en cohérence avec mes aspirations profondes? Et évidemment, vertige de la liberté, vous l'avez dit, et déjà Hannah Arendt le disait, si demain nous délivrons une société de travailleurs des chaînes du travail, le problème est que nous risquons de ne pas savoir quoi faire de cette liberté que nous avons gagnée. Et donc j'y essaye d'imaginer dans le livre ce que nous pourrions faire d'intelligent, chacun de ce temps libéré.
Merci Abdennour Bidar d'avoir ouvert grand les fenêtres et les portes, ça fait rêver. Et puis pour les auditeurs qui veulent penser autrement, je les renvoie à votre livre qui est très accessible, une centaine de pages. Et puis bien sûr, pensez donc, c'est aussi en réécoute ou en podcast sur notre site Eric.
Oui, je rappelle le titre du livre de votre invité, donc ça s'appelle Libérons-nous, signé donc d'Abdennour Bidar et c'est publié aux éditions Les Bien-Nommés, Les Liens qui Libèrent. Merci Laurence Luret, il est 6h24.